Je vais inviter Jean-Jacques Bouteau à monter à la tribune avec ses intervenants. Juste pour le présenter rapidement, je reprends la bio parce que là, attention, nous sommes en présence du vice-président de l'Université de Bourgogne. Je vois qu'il ne m'entend pas, donc je vais essayer de... Vas-y, remonte. Vice-président de l'Université de Bourgogne, co-responsable scientifique du pôle Bourgogne-Vigne-et-Vin, spécialiste de nombreux ouvrages, enfin éditeur de nombreux ouvrages sur la sémiotique, la communication. On pourra dire aussi qu'il fait partie des projets locaux, notamment du comité d'orientation scientifique de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Il participe également au comité de pilotage de la Cité des vins et des climats de Bourgogne. Il est également membre du conseil scientifique de l'Association des climats du vignoble de Bourgogne. Voilà, donc monsieur le vice-président de l'université, je vous laisse accueillir vos intervenants et attaquer la dernière table ronde. Je vais reprendre l'intitulé, mais il est peut-être déjà affiché. Vous le savez mieux que moi. L'écriture et la mise en scène d'un récit.
Merci. On n'a pas de pause pipi, c'est dur pour les seniors. Hein, mais bon, on va essayer de tenir jusqu'à midi et demi. Tu nous rejoins, non? Comment ça se passe? Où sont les intervenants? Alors, on va les accueillir. Voilà, c'est ça, on va faire, voilà, juste présenter, il y a un slide où il présente, là. Voilà. Et puis ensuite, voilà. Bien, j'espère que tout le monde est prêt, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va évoquer la question du récit, alors c'est assez intéressant, évidemment, puisqu'on pourrait situer, on va dire que tous les lieux qu'on a évoqués, les cités qui correspondent au thème du colloque, les musées, les centres d'interprétation, font une proposition qu'on pourrait faire entrer globalement dans des espaces de réenchantement. Voilà. Et pour comprendre le réenchantement, il faut le situer par rapport à ce que Max Weber définissait comme le désenchantement. Et le désenchantement, c'est la perte de la magie comme technique de salut. C'est la perte de la magie, c'est-à-dire l'incrédulité. Bof. On va entrer dans un musée, on va entrer dans un parcours d'interprétation, et bon, il faut bien s'occuper un peu, mais on n'attend pas nécessairement quelque chose d'explosif, de superlatif. Et donc, au contraire, le réenchantement va réintroduire de la magie. Il va réintroduire la magie. Alors, c'est difficile de réintroduire la magie. On n'a pas le temps, évidemment. On n'est pas en cours d'université, mais c'est difficile d'introduire de la magie parce que aujourd'hui, on sait que c'est la fin des grands récits qui pouvaient structurer justement la magie de la relation, la magie de l'histoire. C'est la fin des grands récits. Et pourquoi c'est la fin des grands récits? Ben parce qu'on est dans une époque qui est revenue à des choses beaucoup plus relatives. Et donc, construire aujourd'hui un récit, c'est difficile parce qu'en plus, on est dans ce qu'on appelle une société liquide. C'est la notion de Bauman qui dit une notion liquide, c'est une notion où on est dans la mobilité permanente, les flux, la fluidité, les réseaux sociaux. Et en fait, tout ce qu'on a défini ce matin, par exemple, est-ce qu'on peut définir des typologies, des catégories? Mais c'est en train d'exploser parce que, en fait, c'est comme s'il y avait une dévaluation progressive. Au XVIIIe siècle, on pense l'homme. C'est Voltaire, la France est Champions League, c'est le siècle des Lumières, et on pense universel l'homme. La pensée 68, ça a été de redonner place à l'individu. Et on pense plus en catégorisation sociale encore. Aujourd'hui, c'est le règne non plus de l'individu, mais de la personne, avec son ego, avec son narcissisme, avec son autosuffisance, avec son omnipuissance. Elle a tout vu, elle a tout entendu, elle a tout fait d'une certaine manière. Et quand vous avez un public international qui vient, il n'a pas trop de temps à vous consacrer. Hein. On le débarque, il visite, il regarde des choses, et il faut que très vite, que dans la fluidité, il faut que quelque chose se passe. Il faut que ça prenne. Donc vous voyez, là on pouvait faire encore un récit pépère. Alors qu'est-ce qu'on appelle un récit pépère? C'est un récit qui pouvait être construit sur arrêtez-vous devant un tableau, arrêtez-vous devant un objet, regardez l'étiquette, lisez la pancarte, on vous a prévu quelque chose. Aujourd'hui, c'est des modalités qui fonctionnent de moins en moins, parce que dans cette société fluide, liquide, mobile, nomade, évidemment, le visiteur devient éminemment complexe. Alors, on va dire qu'il est complexe si on veut le faire rentrer dans une catégorie. À mon avis, on perd son temps. Hein, si on veut le faire rentrer, vous l'avez très bien dit, hein, notre conférencière guide, tout à l'heure, elle a dit, j'ai du mal à faire rentrer aussi dans des typologies. On le fait parce qu'on a besoin un peu de... Mais les gens ne viennent pas s'enfermer dans des catégories. Les gens viennent vivre un moment. Et eux-mêmes, selon le moment, peuvent... entrer dans des logiques très différentes. Un jour, ils ont une visite, ils reviennent, pensez aussi aux gens qui reviennent, et un jour, ils vont, par exemple, selon leur fatigue, selon leur humeur, selon leur motivation, ils vont se dire, je vais faire un parcours qui est plutôt ludique, je vais sélectionner quelque chose, ou je vais être dans une démarche plus didactique, j'ai envie d'apprendre. Donc, vous voyez, on pourrait se dire, c'est terrible, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à saisir le visiteur. D'autant qu'on va peut-être voir une chose dans cette table ronde, c'est on parle beaucoup de la visite, mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus, parce que les gens, la visite, la séquence expérientielle, elle est préfigurée sur les... Tout le monde va regarder le programme, et tout le monde va sur les réseaux sociaux, les applis, les sites internet, en préfigurant la visite. Tout le monde a des attentes par rapport à la configuration de la visite. Et il y a énormément aujourd'hui de restitutions sur les réseaux sociaux. Les selfies, vous allez, on a parlé des cités, vous allez sur la Cité du Vin, derrière, il y a toutes les applis et tous les réseaux sociaux qui sont mobilisés, et il y a des milliers, évidemment, des dizaines, des centaines de milliers de messages de gens qui reconfigurent leur expérience après la visite ou pendant la visite. Ça veut dire qu'il y a un après-visite qui est aussi intéressant. Donc ça veut dire que le récit, il va devenir plus étendu et non pas fermé uniquement sur l'expérience de visite. Donc vous voyez, beaucoup de choses intéressantes. Comment on va faire? On est dans cette problématique. Je voudrais simplement terminer ce petit épisode introductif en disant qu'il ne faut pas le voir comme une contrainte, en disant on vit dans la complexité. Bien sûr, la société est complexe. On n'arrive plus à saisir les individus, justement, tellement ils sont fluides, tellement ils sont labiles, tellement ils sont mobiles dans leur pensée même. Mais il faut le voir aussi comme une chance. C'est que ça multiplie aujourd'hui l'occasion de renouveler en quelque sorte l'offre qui est faite. Alors, on va présenter très rapidement les intervenants. Alors, vous avez évidemment les plaquettes, je ne vais pas reprendre de façon exhaustive ce qui est très bien dit dans ces plaquettes, et il faut féliciter les organisateurs et les remercier aussi pour tout le travail préparatoire qui a été engagé. Céline Chanas, alors ils ont un point commun, vous allez voir, nos quatre intervenants. C'est des gens très bien parce qu'ils ont tous des grandes responsabilités. En plus, ils sont tous présidents ou présidentes de quelque chose, j'ai remarqué. Hein. Puisque si vous prenez Céline Chanas, elle est conservateur en chef du patrimoine, directrice du musée de Bretagne, Rennes Métropole, mais elle est aussi présidente de la Fédération des écomusées et musées de société. Édouard de Laubry, qui est là-bas, est responsable du pôle agriculture-alimentation, chargé des collections et des recherches au MUCEM, mais aussi, et on le félicite, président de la Fondation culturelle des Routes de l'Olivier, reconnue ou labellisée UNESCO et Conseil de l'Europe à Kalamata, en Grèce. Eduardo Diaz est directeur du musée de la culture du vin Vivanco, mais il est aussi président de l'association des musées du vin d'Espagne. Et en parallèle de son travail, il a obtenu en 2016 une licence en gestion touristique. Et puis Suzy Macario, à côté de moi, directrice de l'agence Âme et Sciences, muséographe pour les cités des vins et des climats de Bourgogne, mais aussi présidente de l'association professionnelle des muséographes. Pourquoi on dit ça? Évidemment, au-delà du titre de présidente, présidente, on voit que derrière l'attache à une institution, une structure, chacun d'entre nous a envie, évidemment, de prendre des responsabilités qui offrent du recul, de la mise en perspective par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la complexité de l'approche. Vous avez vu les questions tout à l'heure, elles sont sur ces complexités de l'approche. Est-ce qu'on peut enfermer dans une typologie? Qu'est-ce que les gens attendent? Est-ce que les attentes sont toujours les mêmes? Parce que vous pouvez dire, ah ben c'est tel. Vous voyez, vous ne pouvez pas, comme on dit de façon pédante, réifier le visiteur, l'enfermer comme une chose, en disant, toi, tu es dans telle catégorie, toi, on a perçu ton niveau d'attente, et toi, tu vas fonctionner comme ça. Ben oui, des fois ça marche. Hein. Des fois, les gens sont prototypés. Et vous avez utilisé tout à l'heure une notion qui est intéressante, qui est celle de profil robot. Hein. Donc, or, les gens ne sont pas robotisés comme ça. Ils ont des mécaniques de prévisibilité, c'est vrai. Mais en même temps, je l'ai dit, ce qui va être vraiment important, c'est de saisir le moment. Et donc, nous, le récit, c'est quel moment ils vont passer. Et quand on parlait tout à l'heure du réenchantement, ça va être difficile pour la traduction, parce que le réenchantement, c'est aussi le désir de s'en laisser compter, de s'en laisser raconter quelque chose, de se laisser transporter par la force du récit. Alors ce qu'on propose peut-être aussi, c'est d'abord chacun d'entre nous, d'entre vous, va d'abord, avant d'entrer en immersion, alors on nous a dit qu'il faut éviter, je le comprends bien, les tunnels, c'est-à-dire que chacun prend 10 minutes, un quart d'heure pour présenter sa structure, et ensuite on fait de façon séquencée, et on préfère une approche de table ronde rythmée. Mais en même temps, nous avons une difficulté propre, qui est dans le récit, de comprendre la structure, et ensuite d'aller en immersion dans les différents univers qu'on vous a choisis. Alors on vous a choisi 4 formats différents, vous allez voir. Avec Céline, le format, c'est une exposition autour du Bouard, en Bretagne. Avec Suzy, c'est pas une exposition. En fait, on n'a rien le droit de montrer avec Suzy, parce que par rapport à la cité naissante, tout cela est confidentiel. Donc Suzy, elle va nous appâter avec des principes de construction, des principes d'organisation. Avec Eduardo, on sera sur un parcours de visite. Donc, vous voyez, exposition, principe d'organisation, parcours de visite avec Eduardo. Et Edouard, on sera sur une collection permanente dédiée à la vigne et au vin. Donc, vous voyez, on a choisi 4 formats différents qui vont nous faire un peu voyager aussi. Et on va se dire, avec ces 4 formats différents, comment organiser le récit. Et ça, c'est la clé. Je propose simplement que on a... Donc l'intervenant, tout a été dit, donc c'est très bien. On dit peut-être un mot simplement, avant d'entrer en immersion, sur le MUCEM, pour cadrer un petit peu l'environnement. Et ensuite, on ira plus tard, on fait le petit tour de chacune des structures, et quand on a fini notre petit tour de chacune des structures, hop, on se met en immersion. Alors, Edouard, juste la présentation du MUCEM. Est-ce que tu as un micro? Non.
Bonjour, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors le MUCEM, c'est le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée qui a ouvert à Marseille en 2013. En fait, le MUCEM, c'est l'héritier de l'ancien Musée national des arts et traditions populaires qui se trouvait à Paris, dans le bois de Boulogne, qui lui-même était une institution qui avait été créée en 1937 par le Front populaire. Ce MUCEM, en fait, il a comme... différence très importante par rapport au musée précédent, d'être non plus un musée d'ethnographie nationale, même si le musée reste référent sur ce domaine, mais d'être ouvert, de s'ouvrir sur l'Europe et sur la Méditerranée. Et du point de vue de l'organisation de la structure, la relation entre l'exposition permanente et l'exposition temporaire, elle aussi a beaucoup évolué, puisque l'exposition permanente n'occupe qu'une surface assez réduite par rapport à la totalité du bâtiment et est renouvelée tous les 3 ans. Donc on n'est plus dans du permanent mais dans du semi-permanent. Et les expositions temporaires ont pour objectif essentiellement de présenter un panorama extrêmement large des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, surtout de la Méditerranée d'ailleurs, avec des présentations notamment qui sont beaucoup plus tournées vers l'art contemporain, ce qui était totalement inimaginable dans l'ancien musée parisien. Alors le nombre de visiteurs, il est assez impressionnant, 1,5 million. Alors 1,5 million, ça veut dire que... Alors oui, c'est même ce qui est même assez incroyable, c'est qu'on reste à peu près aujourd'hui au même pourcentage de visiteurs. Alors 1,5 million, c'est ceux qui visitent le site dans la globalité, puisqu'en fait, seules les expositions sont payantes. Donc là, on tombe à 350 000, non, un peu plus que ça, presque 450 000 visiteurs payants par an. Mais tout le reste de la promenade, en fait, dans le fort que vous avez en diapositive et dans le bâtiment moderne, qu'on ne voit pas sur la diapo, et on verra après, voilà.
D'accord. Merci Edouard. On va passer directement, on reviendra évidemment sur l'immersion. Alors on s'est dit, on va peut-être présenter 3 ou 4 slides pour chacune des structures et chacune des mises en récit. Et puis on n'y est pas arrivé, chacun a mis 15-20 slides. On a laissé faire, on est comme ça dans cette table ronde. Non, je ne voulais pas frustrer les intervenants, mais vous voyez. Alors, on verra qu'avec Edouard, on va beaucoup parler aussi de collections liées à des objets. Et Suzy, changement de registre, l'âme. Alors...
Non, c'est vrai qu'on s'appelle l'âme en science parce qu'en fait on essaie de mettre un peu d'âme dans la science parce qu'on dit souvent que la science il y a quelque chose d'un peu austère, de mécanique, de rigide et nous on montre justement que c'est pas le cas. Du coup oui, donc je m'appelle Suzy Macario, j'ai fondé cette agence en 2004. Sur cet exposé, ce que je voulais vous montrer c'était comment je travaillais pour construire un récit du début jusqu'à la fin. Pas vous montrer ce que j'ai fait d'exceptionnel, mais juste de faire comprendre comment on fonctionne. J'aborderai pas trop la question des publics puisque vous l'avez bien traité. Voilà. Et puis j'arriverai surtout jusqu'au dispositif de médiation puisque nous on est assez spécialistes des dispositifs un peu innovants, numériques, etc. Et de montrer qu'il y a des choses très sensées qu'on peut faire qui sont pas du tout, qui sont très dans l'émotion en fait, parce que c'est vraiment notre recherche, c'est de mettre de l'âme et qui sont pas décorrélés du coup d'un sujet très scientifique. Voilà, donc je vous montrerai les différentes expositions que j'ai réalisées pour illustrer.
Et le mot âme, tu lui donnais une coloration quand même particulière. Ce que tu voulais, c'était de dire qu'il y a quelque chose qui est un peu habité au-delà dans le discours qui...
Oui, en fait, à mention, c'était pour dire vraiment qu'il y a de l'humain et que nous, en fait, on ne fait aucune exposition, contrairement à certains centres scientifiques que je ne vais pas citer, mais on a toujours des chercheurs avec nous. C'est-à-dire que ce n'est pas moi la chercheuse, je suis OK une chef de projet, mais en gros, j'ai besoin des hommes et des femmes pour faire mon travail et c'est sur eux que je m'appuie.
Merci Suzy. On passe en Espagne et je voudrais en profiter aussi pour remercier Didier qui fait la traduction. Je suis toujours fasciné par les traductions comme ça en direct, avec tous les jeux de mots qu'on peut faire, les allusions, les métaphores. Bon, merci. Eduardo, alors, on va présenter un peu. Je vais aller sur le slide qui présente la structure simplement, qui est un petit peu plus loin. On reviendra. Voilà. Alors, est-ce qu'on dit bien musée Vivenco ? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut présenter la structure en 3-4 minutes, 3 minutes ?
Bonjour, merci à tous. Excusez-moi parce que je ne parle français, mais Didier va faire l'exposition.
Vivenco est un projet...
En même temps. Vous voulez entendre l'espagnol ? Ah oui, alors tu parles et puis tu traduis.
Bueno, pues buenos días. Vivenco es un proyecto totalmente familiar. Tenemos también en la sala a Santiago Vivenco, cuarta generación de la familia.
Vivenco est un projet familial, donc nous avons également Santiago de Vivenco, qui est donc une personne.
La familia lleva desde 1914 en el mundo del vino. Fundamentalmente, lo que se ha dedicado es a la elaboración y comercialización de vinos.
Y esta familia, donc, ha comenzado a trabajar la vigne, enfin, travailler la vigne depuis 1914.
Pero desde la tercera generación, Pedro Vivenco, que es una figura clave en todo nuestro proyecto, pues expande el negocio familiar, tanto desde el punto de vista enológico como del cultural y turístico.
Diogo Vibanco, donc c'est la troisième génération et c'est vraiment symbolique du point de vue autant culturel que de la production en fait vinicole.
Pedro Vibanco, a finales de los años 70 y principios de los años 80, va a estudiar enología requena y se da cuenta del gran cambio que está viviendo nuestro país, que venía de un contexto sociopolítico muy diferente. El país empieza a cambiar en todos los sectores y el vino no es una excepción. Y se da cuenta que la manera de elaborar el vino de su padre, de su abuelo, pues está cambiando.
Donc Pedro Vivanco a fait une université, enfin a étudié l'empélologie dans les années 70-80, et il s'est rendu compte en fait des changements sociopolitiques importants qui existaient dans le pays. Et à partir de là, il a décidé d'élaborer quelque chose de différent.
Entonces él, además de la modernización de la parte de la bodega, que bueno, hoy no es el tema que nos ocupa, pues comienza una labor de recuperación de todos esos objetos relacionados con el cultivo de la vid y la elaboración del vino. En un momento, además, en el que España, la etnografía realmente interesaba muy poco, con lo cual le permite hacer una colección enorme, con un esfuerzo de recuperación muy grande, porque como digo, no se valoraban ese tipo de objetos. Además de la colección etnográfica, él comienza...
Après la modernisation, il a décidé en fait de moderniser la cave en fait et la production du vin. Il a récupéré également de nombreux objets, tous les objets qui étaient utilisés pour la culture de la vigne et la fabrication du vin. Notamment en Espagne, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Et donc, il a réalisé un très grand effort pour récupérer tous ces objets et les mettre en valeur.
Y además de la colección etnográfica, él comienza a coleccionar libros sobre vino. Tenemos una colección con libros desde el siglo XVI hasta la actualidad. La colección de sacacorchos, que es una de las más singulares. Luego hablaremos de ella. Simplemente, un poco para antes de pasar la palabra, comentar que toda esta colección pues ya nace con la idea de difundirla al público en un momento en el cual el enoturismo, las visitas a las bodegas no existen. En los años 80 nadie visitaba las bodegas en España. Pedro Vivanco ya tiene esta visión, es un pionero.
À part toute la collection donc ethnographique, il y a également une grande collection, une importante collection de livres, et ce depuis des livres depuis le XVIe siècle, et également une collection importante de tire-bouchons. Et c'est donc l'idée, c'était de présenter cette collection au public à un moment où il n'y avait pas l'ethnotourisme n'était pas présent ou n'existait pas encore. Il a donc eu cette vision de commencer à réunir ces différents objets pour les présenter.
Je vais reprendre. Merci. On passe de l'Espagne à la Bretagne avec Céline.
Bonjour, donc vous allez avoir la photographie du bâtiment des Champs Libres dans lequel se trouve le musée de Bretagne. Donc c'est un musée de société, un musée de France qui est donc installé depuis 2006 dans ce qu'on pourra appeler un complexe culturel. Là aussi on parlait de comment nommer les choses, son nom est compliqué, les Champs Libres c'est un, on va dire, c'est un nom qui est très bien implanté dans la métropole et par finalement ce qui est notre cœur de public, c'est-à-dire les habitants du territoire. Mais au-delà, c'est plus compliqué. Nous sommes justement dans une réflexion finalement sur la problématique de marque, de rayonnement et de nos valeurs. Et donc, en accueillant un musée de société, un centre de culture scientifique et technique, l'espace des sciences et une bibliothèque, notre établissement culturel est vraiment positionné sur des ambitions de transmission des savoirs. Donc on est un des acteurs majeurs de la politique culturelle de la métropole et donc nous bénéficions à ce titre de moyens assez conséquents en regard aussi des missions que nous avons à mener, des missions on pourrait dire assez classique pour un musée, conserver, acquérir un patrimoine qui est pour nous très important, 600 000 items dans nos collections. Et par rapport à cette question de la transmission des savoirs et des connaissances, nous la menons dans le cadre du coup du nouveau PSC, projet scientifique et culturel du musée, dans une optique résolument tournée vers la philosophie du partage et de l'open data culturel, qui est l'un des enjeux de la métropole, avec notamment un portail des collections en ligne qui est pour nous finalement un des moyens également soit de préparer sa visite, soit de se documenter, enfin, en tout cas à côté du musée physique et donc de l'expérience. Nous misons vraiment finalement sur l'amplification, enfin en tout cas sur d'autres manières de mener les missions de musée. Nous produisons beaucoup d'expositions temporaires dans des salles qui sont entre 400-600 mètres carrés. Donc, je vais vous parler prochainement d'un des sujets, sachant que la plupart de nos projets sont justement à la croisée, on va dire, de la mise en perspective historique et du fait contemporain. Donc, au champ libre, on débat, on aborde des sujets aussi qui grattent, justement pour ne pas être dans une vision idéalisée d'un territoire. C'est vraiment notre enjeu et nous avons, dans le cadrage qui est celui de nos missions scientifiques et culturelles, une forme de liberté, finalement, pour mener ce type de mission qui sont importantes quand il y a, c'est le cas notre part, utilisation et mobilisation de fonds publics.
Merci Céline. Donc nous allons entrer maintenant dans le cœur du système. On n'a pas cherché, vous avez vu en introduction, à donner une définition canonique du récit. Ce que l'on comprend, c'est la capacité malgré tout pour la structure, pour l'institution, pour l'organisation, à produire une histoire, et on l'a dit tout à l'heure, la capacité, d'ailleurs le mot capacité pour le visiteur, le mot capacité est peut-être pas le bon, de plus en plus on parle d'une disposition, la disposition dans laquelle se trouve le visiteur, et on dit même encore un terme plus subtil encore que disposition, qui est celui de disponibilité. Je vois la difficulté pour la traduction, hein. Disposition, disponibilité, peut-être. C'est quoi la disponibilité? C'est l'ouverture potentielle du visiteur à ce qui va se produire. Donc d'un côté, la capacité à raconter une histoire, de l'autre, la disponibilité pour s'en laisser compter en quelque manière. Et ce qui va être intéressant, c'est que la dimension narrative du récit n'est pas réductible à du texte, à du verbal. Cette dimension narrative, aujourd'hui, vous le savez, elle passe par des éléments de texte, des éléments de verbalisation, mais elle passe aussi de plus en plus par des éléments de contextualisation et même d'immersion. Et c'est la raison pour laquelle, à la faveur de l'immersion, on va utiliser des éléments qui vous subjuguent, la sensorialité, la polysensorialité, les nouvelles technologies. On va l'aborder calmement. D'ailleurs, je ne sais pas si on prendra ces pistes-là. On a voulu aussi que de la table ronde émerge quelque chose qui sera dans la surprise, y compris pour nous. Et ensuite, évidemment, les questions avec vous pour le public. Donc, comprenez bien cette articulation entre faire une proposition du côté de la structure, raconter une histoire, mais il faut qu'on ait tous en tête que raconter une histoire, ça n'est pas uniquement une dimension verbale. L'histoire va passer par toutes les modalités sensorielles. Alors évidemment, dès qu'on est avec le vin, ça peut être voir, lire, toucher, sentir, des capacités sensorimotrices, je vais à gauche, je vais à droite, où est-ce que je vais, est-ce que je me retrouve, etc., etc. Donc maintenant, je me tais, on regarde les structures et on se met en immersion de structure en structure. On commence avec Edouard, on est au MUCEM, on a compris l'environnement, et maintenant, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, toi Edouard.
Alors, puis,
si tu veux activer toi-même ton... tu mets Next.
Je mets Next.
On vous donne tous les coulisses de l'organisation. Hein.
Alors, on parlait à l'instant de diversité des sens, de multiples discours. Alors, je suis désolé pour le MUCEM, on n'en est pas là.
Je te rappelle que tu as 10 minutes.
Hein. Ouais. Non, mais je ne parle pas 10 minutes.
Non, mais là, tu peux monter tes slides. Hein.
Ah, bravo. Alors, donc... Ah, je vous mets dans le récit. Alors, si je vous mets dans le récit, je vais peut-être commencer par Beaune. Voilà. Parce qu'une des interrogations, c'était de savoir, en fait, quel est le rôle de l'objet dans le musée. Parce que tout à l'heure, il y a eu tout un débat à savoir si muséographie, objet de musée, c'était différent du centre d'interprétation. Bah, en réalité, on dit que non, mais oui. De fait, tout à l'heure, vous avez parlé de la maison des climats de Beaune, qui est une structure distincte du musée de Beaune, du musée du vin. Donc en réalité, la jonction des deux n'est pas si simple. Et si on parle de la cité du vin de Bordeaux, c'est un centre d'interprétation dans lequel il n'y a pas de collection. Les collections, elles sont données par les expositions temporaires. Donc on voit bien que le lien entre ces deux structures, le centre d'interprétation et le musée, n'est pas si évidente que ça. Alors là, je voulais juste vous montrer quelques photos du musée de vin de Bourgogne à Beaune, parce qu'en fait, il y avait une des questions qui était le rapport entre le musée et le folklore. Et donc, ce musée du vin, tout comme à l'instant on parlait du musée des Champs Libres, en fait, à l'origine, il y a un muséographe français qui est Georges-Henri Rivière, qui, lui, va vouloir justement faire table rase d'une vision folklorique. Alors, une vision folklorique, c'est quoi? C'est des mannequins qui sont en train de jouer avec des objets. Bon. Et donc, de vouloir proposer quelque chose de totalement novateur, de très épuré, même peut-être d'un peu froid, mais d'avoir une muséographie beaucoup plus scientifique. Et finalement, et c'est quand même un des premiers musées faits après-guerre qui va rendre compte à la fois d'une collecte d'objets, notamment par André Lagrange, et également d'une mise en scène extrêmement, extrêmement novatrice à l'époque, avec le lien avec le paysage. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas, je dois aller vers où? Par là? Ça ne marche pas, next. Je suis back. Non, next, ça ne marche pas. Je ne sais pas vers où il faut appuyer par là. Ah, next est bloqué. Donc bref, c'est pas grave. Sans diapo, c'est pas évident quand même. Help. Ah, je crois que c'était la touche help, mais. Donc en fait, une muséographie extrêmement moderne, extrêmement épurée. Et donc ça pose aussi finalement l'interrogation sur le type d'objet que l'on peut avoir dans nos musées. Finalement, à cette époque, la garantie de quelque chose de scientifique par rapport à quelque chose de folklorique, c'est l'idée de la chaîne opératoire. La chaîne opératoire, ce sont toutes les étapes successives qui vont permettre d'aller d'une matière première à un produit fini, donc de la vigne au vin. Et donc la plupart des collectes d'objets après la guerre et même jusqu'à, on peut dire quasiment aujourd'hui, est dirigée vers cela. Donc la chaîne opératoire qui garantit la scientificité du propos. Il y a aussi les objets qui sont liés à la dégustation, à la consommation du vin, les verres, les flacons, l'évolution de la bouteille, les tire-bouchons, les bouchons. Monsieur parlait à l'instant de sa grande collection de tire-bouchons. Donc on est quelque chose là aussi qui est plutôt vers le rêve, en fait, vers la consommation. On s'imagine déjà l'idée de déguster du vin. Enfin, il y a les objets qui sont liés à la représentation de ce travail de la vigne. Donc c'est la représentation par le biais des images de vignerons, par le biais des étiquettes de vin, par le biais des fêtes au l'honneur de Saint-Patron, Saint-Vincent, Saint-Vernier, etc. Donc là, on a quelque chose qui est en fait l'essentiel de nos collections de musées. Mais en fait, tout cela pose pas mal de problèmes, c'est-à-dire notamment le problème du contemporain. En fait, auparavant, on s'intéressait aussi aux typologies d'objets. En fait, quand j'ai commencé autrefois aux ATP, je me passionnais pour les O3AB, qui sont les outils agricoles, aratoires à bras. Voilà. Évidemment, on a la manière d'appréhender les collections a changé, et on n'est plus sur les variations typologiques. Néanmoins, cela quand même pose un certain nombre de problèmes dans nos musées, c'est la collecte du contemporain. Ça, c'est un vrai problème. Est-ce qu'on acquiert des objets en plastique? On a des beaux objets en bois, en métal, en céramique, en faïence, en porcelaine, en verre. Donc qu'est-ce qu'on fait de cela? Est-ce qu'on va collecter les machines à vendanger contemporaines, les cuves en inox pour la fermentation? Est-ce qu'on va parler des différents produits chimiques qu'on utilise pour le traitement de la vigne? Ça, évidemment, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, est-ce que c'est un autoblocage qu'on se fait nous-mêmes pour ne pas avoir à présenter ces objets qui sont considérés comme non nobles? C'est une vraie question. Et on a également d'autres problématiques qui sont liées à l'histoire même de la viticulture. En fait, nos musées, ils glorifient les territoires sur lesquels ils sont implantés. Mais on ne parle pas jamais de choses qui fâchent. Le phylloxéra, bon, on en parle un peu, mais pas trop. On ne va pas parler de la concurrence des vins algériens au XIXe siècle hein, qui vont dominer, en fait, qui vont être très importants au moment de la crise de phylloxéra en Europe. Les AOC, on n'en parle pas tant que ça, en réalité. Ah, ça remarche. Bon, bah, je ne sais plus où j'en suis.
Calmement.
Voilà, donc je vous parlais du musée du vin de Beaune, parce que le musée des ATP, art et tradition populaire, hein, je traduis, avait été un des musées, était le musée national, mais il a contribué à l'ouverture de nombreux musées en région, dont ce musée donc du vin de Bourgogne à Beaune. Et vous voyez dans ces photos qui ont été prises juste au moment de l'ouverture qu'on a une muséographie extrêmement sobre, extrêmement moderne, dans un bâtiment historique, mais quelque chose d'extrêmement épuré. À l'époque, c'était complètement moderne, complètement novateur. Alors évidemment, on n'est pas sur des dispositifs aujourd'hui en 3D ou quelque chose comme ça, mais une muséographie un peu austère, mais malgré tout qui magnifie l'objet, c'était à l'époque totalement novateur. Avec des panneaux techniques qui permettent de comprendre les différentes étapes de la culture de la vigne. Là, c'était les réserves à l'époque. Bon, je pense qu'elles ont changé depuis. Là, au musée des ATP à Paris, donc l'ancien musée national, qui n'existe plus, donc on avait finalement pas beaucoup de vitrines qui présentaient le vin, paradoxalement, alors que c'est tellement important dans la culture, dans notre civilisation. Donc on avait des vitrines essentiellement thématiques. Ici, c'était la vitrine qui résumait la vigne au vin. Donc c'était à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Donc on n'est pas dans le même secteur géographique. Mais vous voyez, c'était sur fond blanc à Beaune. Ici, c'est sur fond noir. Mais l'idée, c'est toujours une présentation qui met vraiment en valeur l'objet sur des fonds extrêmement neutres. Voilà, là c'était l'autre vitrine qui était face à la précédente, qui présentait notamment une collection de tasses de vin et une collection de bouteilles. Voilà, les vignobles étaient représentés avant la crise du phylloxéra. La sociabilité était très peu présentée, juste en parlant du bio d'Arbois, donc on est en Arbois. Là c'était l'ancienne section de la galerie d'études qui se trouvait au sous-sol de l'ancien musée, qui présentait également les objets d'un point de vue typologique, voilà, pour les serpettes par exemple, mais on mettait en valeur toujours les aspects les plus traditionnels et la modernité. Vous voyez, les sécateurs sont juste en bas, mais très très secondaires par rapport au reste de la présentation. Alors ça, c'est plutôt au Mucem maintenant, à Marseille. Donc j'ai réalisé l'exposition semi-permanente que je vais renouveler l'année prochaine, mais où le vin était une partie de la fameuse triade méditerranéenne, donc mise en évidence par Brodel, sur la vigne, l'olivier et les céréales. Et donc j'ai pu faire, et ça c'est super, des acquisitions en fait, il y a les ATP qui sont revenus entre deux,
d'objets... Pardon Edouard, c'est le jeu d'échelle simplement. On est sur quelle échelle là, au niveau de la maquette du cellier qui est juste
alors,
avant?
La maquette du cellier, là vous la voyez dans l'angle de la photo. Ouais. Donc là c'est des objets que j'ai collectés en Géorgie. Alors la Géorgie m'intéressait parce que c'est un des berceaux de la vinification dans le monde. C'est aussi cette vinification en jarre a été labellisée par l'UNESCO au titre du patrimoine immatériel en 2013. Donc là aussi ça m'intéressait de pouvoir mettre en lien l'immatériel avec le matériel, même si les musées d'ethno n'ont pas attendu le patrimoine culturel immatériel pour s'intéresser à ces aspects-là. Là, c'est un autre podium au musée, au Mucem, qui présente des objets qui proviennent de Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape a été un de nos mécènes, Donc là aussi, c'est un facteur important et qu'il faut considérer, c'est-à-dire un musée où il a aussi besoin de fonds. Et donc un échange là qui correspondait bien, enfin, qui n'était pas un échange artificiel, entre une présentation de collection mettant en valeur un vignoble qui fêtait également son AOC et une présentation muséographique, mais qui elle-même est extrêmement classique, puisque ça reprend la chaîne opératoire. Là aussi, c'est les ATP. Bon, voilà, voilà. En gros, sur les catégories d'objets qu'on peut trouver au musée.
Merci, Edouard. Donc, je vais reprendre la télécommande, si elle veut bien fonctionner aussi. Merci. Si on résume, on se dit, ben, par rapport à ce parti pris narratif ou le récit, on voit l'omniprésence, évidemment, des objets, la force des objets. Est-ce que tu as donné aussi au MUCEM, par rapport à cette collection permanente, une trame narrative avec une ligne narrative qui relie ces différents objets?
La trame narrative, elle reste celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est la chaîne opératoire. Parce qu'en fait, je n'avais pas de dispositif suffisant, comme c'est juste la partie sur la vigne n'est qu'un élément parmi un grand ensemble, je me suis contenté de la chaîne opératoire qui était le mode de présentation le plus simple.
Très bien.
Mais je ne dis pas que c'est le plus moderne, hein, c'est au contraire le plus classique, mais je n'avais pas les moyens pour faire quelque chose de plus original, on va dire.
Non, mais c'est très bien. Merci. Ça va être des choix, des partis pris, on va le voir. Et puis ensuite, on va voir précisément si ça, y a une certaine appétence du côté du public, si tu as pu faire des évaluations par rapport à... On reviendra évidemment plus précisément sur ton cadre précis. Avec Suzy, donc, on a déjà présenté l'esprit de Dames et Sciences. On va regarder un peu... Donc Suzy, malheureusement, est contrainte par la confidentialité des projets à venir sur la cité. Mais ce qui nous intéressait, c'était d'aborder les problématiques qui sont les tiennes et de voir un peu ta posture, comment tu te positionnes par rapport à ces problématiques. Alors on voit ici une problématique, comment mettre en récit...
Je suis partie bêtement en fait, du sujet de la table ronde. Je suis un peu scolaire, mais du coup, je me suis arrêtée sur trois mots qui sont clés pour nous, c'est-à-dire mettre en récit, des bases scientifiques et des dispositifs attractifs, ce sur quoi on arrive en fin de travail. Du coup, je vais passer. Ouais, tu vois où j'en suis. Voilà, donc en fait, nous, on commence par donc, cette histoire de base scientifique. Avant même d'ouvrir un livre, chez Amant Science, on ne fait pas ça partout, mais chez nous, on commence d'abord par écouter ceux qui savent. C'est les chercheurs, les conservateurs, les auteurs, les vignerons. On n'a pas la prétention, je disais, de les remplacer. On est en fait, nous, muséographes, des traducteurs de leurs pensées, et c'est eux qui détiennent la vérité de la connaissance. Et c'est eux aussi qui nous invitent à vivre pleinement le sujet et qui sont capables de nous faire ressentir l'objet de leur travail et leurs émotions. Donc je commence toujours par là. Parfois, mes clients, qui ne sont pas directement les comités scientifiques, me disent « Oui, mais c'est compliqué avec les chercheurs ou les spécialistes, ils sont têtus, abscons, des fois obscurs même. » Mais moi, je dis que c'est normal parce qu'en fait, à chaque fois, sur chaque sujet d'exposition, je pénètre un milieu que eux, ils connaissent depuis des dizaines d'années et que moi, j'arrive comme une novice et que je dois comprendre, alors que eux, pour la plupart, n'ont pas l'habitude de médiatiser leur sujet. Donc, je dois me faire toute petite au début sur chaque projet. Je les écoute patiemment, j'essaye de gagner leur confiance. Souvent, je leur dis que je ne comprends pas, en fait, et eux se demandent pourquoi je ne comprends pas ce qu'ils racontent. Donc, au début, voilà, il y a un temps d'adaptation, parce que chaque fois, chaque spécialiste pense que c'est évident, son sujet est connu de tout le monde. Et c'est vraiment ça, sur tous les sujets, c'est assez drôle. Donc, au début, par exemple, un vigneron, il va me parler de bâtonnage, de fermentation malolactique. Un astrophysicien, lui, il va me dire, bien sûr, la dualité onde-particule, on la connaît tous, l'univers dodécaédrique encore plus, les avions de Mystère 4 de vol balistique et le biologiste de synapses et d'hypothalamus. Comme si, effectivement, je connaissais tous les registres. Donc, au début, ben, on reprend les bases, et puis, au fur et à mesure, je rentre dans son univers. Et ce que j'essaie de faire, c'est de... Je considère leur objet d'étude comme une espèce de pierre brute qu'il faut tailler pour réussir à la sublimer, parce qu'eux-mêmes ne le font pas toujours très bien. et donc on va les sublimer par le récit et les outils de la médiation pour en faire un diamant. Donc, parfait, c'était l'introduction. Dans le cas de la cité des vins de Bourgogne, on a passé beaucoup de temps donc, avec des vignerons, des historiens, des géologues, des toponymistes, qui étaient passionnants. Et plutôt que d'accumuler les données des livres, on a d'abord commencé par sentir ce qu'était vraiment la Bourgogne et les gens qui la vivaient. Et donc on est allé chez des vignerons incroyables qui nous ont ouvert leurs portes et raconté leur vie, leur travail, pour qu'on s'imprègne vraiment de ce que pouvait être la particularité de la Bourgogne. Donc je vais vous montrer d'autres registres parce que ça permet aussi de bien comprendre comment on travaille. Par exemple, sur Marcello, c'était une exposition pour le pavillon de l'eau à Paris, j'ai travaillé avec Vionel Sauter, qui est celle qui pilote l'œil du rover Curiosity qui est sur Mars en ce moment. Et c'est pour vous montrer en quoi c'est incroyable, c'est-à-dire que ce que je n'aurais pas pu trouver dans les livres, je peux le trouver en allant voir des chercheurs, c'est-à-dire que je suis allée chez elle le soir, quand elle est devant son ordinateur et qu'elle est connectée avec le monde entier, tous les gens qui travaillent dans l'espace, et donc la NASA, mais tous les autres pays, et qui sont en train de délibérer à savoir comment on va faire avancer le rover. Et les tensions, les enjeux politiques, ça, je ne peux pas le trouver dans un livre, et ça, c'est ce qui va m'amener, vous allez voir, au récit. Dans le cas donc, du musée du fruit, j'ai travaillé pour le musée du fruit et de la distillation à Porrentruy en Suisse. C'est pareil, en fait, on a passé beaucoup de temps avec mon client qui était un exploitant de verger et qui a monté lui-même son musée, et des spécialistes de la distillation, des alambics. J'ai d'ailleurs dû d'abord commencer par boire beaucoup d'eau de vie, parce que sinon je pense que je ne serais jamais passée. Et c'était le seul moyen qui me confie vraiment des sujets et des secrets. Donc on a passé beaucoup de temps dans des bars là-bas en Suisse. Mais voilà, pour moi c'est le temps de travail zéro, il faut commencer par ça. Voilà. Ensuite, on se plonge évidemment dans les livres. Mais ce qui est important à savoir, c'est que alors, quand je commence ma lecture, je suis animée de la passion que m'ont transmis les chercheurs. Et surtout, je sais comment chercher les informations. Je ne suis pas face à Wikipédia et ses 3000 sujets. J'ai déjà en moi la fibre de la narration qui va me guider dans cette immensité des contenus. La troisième partie de mon travail, ça va être à trouver quel est le parti pris. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous entendez souvent, moi c'est ce qui me guide tout le temps. C'est un peu ce qu'est l'intrigue au roman. Et j'ai hérité cette interrogation de mon mentor qui s'appelle Vincent Laboré, que je remercie encore parce qu'il m'a formée pendant mes études à l'Université Paris 3 de conception d'exposition. Et ce questionnement, il ne m'a jamais plus quittée. C'est-à-dire que faire une exposition à un musée, pour moi, ce n'est pas tout dire. Sinon, comme je disais, il y a Wikipédia, il y a des livres, ils le font très bien. Dire tout sur Einstein, sur les cétacés, sur la chimie, c'est bien. Mais moi, je veux savoir ce qu'on veut dire précisément. Et je veux que mon client, il ait un musée sur mesure qui lui ressemble, avec donc un angle d'attaque. C'est ça qui va le rendre unique. Donc, ce que j'essaye de faire, par exemple, dans le cas, vous voyez, de Mars, là, c'était pas de tout dire sur Mars, c'était de partir sur vraiment un parti pris très fort, et cette exposition avait un titre assez mystérieux, c'était de Mars la bleue à Mars la rouge, et c'était pour transmettre un message très fort qui est que avant Mars, comme notre planète, elle était totalement bleue. Aujourd'hui, elle est totalement aride, et que si aujourd'hui on ne préserve pas ce qu'il y a sur notre planète, on deviendra la même chose. Donc voilà, pour moi, une exposition, ça doit aussi réveiller quelque chose en soi, ça doit faire bouger les citoyens et les interroger. Voilà, il en faut aussi, exactement. Rapidement, là, dans l'exposition météorite qu'on a fait au Muséum d'Histoire Naturelle, on avait 400 météorites, un parcours de 1000 m². Honnêtement, je pense qu'à la fin, les visiteurs étaient sur les genoux. Il y en avait trop, je le dis aujourd'hui, j'en suis sûre. Mais s'il y a un message qu'on devait retenir, c'est ça, ce parti pris que j'essaye de développer dans chaque expo, c'est que ces météorites, c'est des livres ouverts sur notre passé, qu'elles sont cruciales parce que quand on les ouvre, il y a des toutes petites choses qui s'appellent les grains présolaires qui étaient là avant même la naissance de notre soleil et que ça nous dit tout sur notre passé. Voilà. Et je pense que parfois, il faut se dire qu'une exposition, ça fait le deuil de certains contenus pour pouvoir aller droit au but et que le visiteur reparte avec au moins une info. Parce que quand j'ai fini cette exposition, j'ai fait des dizaines de visites guidées avec des professionnels comme vous, des gens plutôt une élite. Quand je leur demandais à la fin des 1000 m² ce qu'ils étaient capables de me dire ce qu'il y avait dans mon expo, en gros, je pense qu'il y avait peut-être deux sujets qui ressortaient. Franchement, deux. Et encore, je suis gentille. Donc voilà, ça met une claque sur ce que le visiteur est capable d'ingérer. Dans le cas de la Cité des Vins, donc, bah, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, notre parti pris, je pense, c'est ce qui peut-être nous distinguera des autres lieux, c'est qu'on essaye de faire ressortir avant tout l'humain, justement ces gens que j'ai rencontrés, parce que le vignoble bourguignon est différent des autres et qu'on doit ressentir ses particularités et que finalement, l'âme de la Bourgogne, c'est son vin et ses vignerons. Donc son rapport, le rapport des hommes à la terre, au climat, à la vigne. Il faut montrer l'homme dans sa vérité nue. On a essayé vraiment d'avoir des témoignages. On veut montrer leur fragilité, leurs doutes, leurs croyances. Quand ils partent la nuit dans un champ avec leurs enfants et que, enfin dans un champ, enfin dans un vignoble avec leurs enfants et que et qu'ils doivent tâter les feuilles, ils doivent guetter le froid. Enfin, il y a une tension et cette tension, on va essayer de la retransmettre dans les différents espaces. Voilà, avec de la musique, avec des instruments, avec des outils. Qui pour dramatiser aussi un petit peu les choses. Voilà, ça je vais peut-être passer, parce que je ne veux pas trop m'étendre. Donc quand on a trouvé le parti pris, ensuite on se lance dans une organisation des contenus, forcément, et un découpage en séquence. C'est la troisième partie, on va dire, du travail. Là, par exemple, au musée des fruits et de la distillation, on s'organisait en un déroulé qui faisait du verger au marché, puis à la cuisine. Voilà, c'est un parti pris, ça permet de traiter en fait les problématiques du client. Puis ensuite, quand on a fait ça, on commence à imaginer des outils de médiation qui vont révéler les contenus, et c'est le quatrième temps de notre travail, traduire en forme le plus ludique, le plus émotionnel, le plus interactif, les sujets qu'on a vus. Et donc, je vais finir par juste les deux dernières slides. Vous allez voir, il y a celle-là, effectivement. Donc ça, c'est sur l'exposition météorite. On a fait monter les gens à bord d'un vaisseau spatial et on partait aux confins du système solaire rencontrer les corps parents, ceux qui sont, d'où viennent en fait les météorites. Et on remontait dans l'espace. C'était assez magique. Ce qui est assez fort, c'est qu'on a réussi à parler à des tout-petits. Le langage était suffisamment précis pour parler à des petits et aussi à des techniciens, parce qu'on a eu des chercheurs vraiment qui sont venus et qui nous attendaient au tournant et qui ont été vraiment scotchés par la narration de ce film. Donc c'est qu'on peut arriver à toucher tout le monde. Voilà. Juste après, bah pareil, vous voyez, je te laisse avancer sur la slide, pour L'Oréal, on voulait rentrer à l'intérieur de la peau et montrer comment ça se déroule. Donc on a immergé le visiteur dans un univers complètement inconnu, c'est-à-dire comment on est quand on est sous notre peau. On voit les cellules qui migrent jusqu'à la surface, et tout en haut, vous voyez au plafond, on a projeté des images, par exemple, d'un moustique à mon nez qui arrive et qui nous pique, et on sent, en fait, on se rend compte de ce que ça fait comme décharge dans notre corps. C'était assez fort. Voilà. Et donc, la dernière slide, je conclue juste pour vous montrer un mapping qu'on a fait toujours pour le musée de la distillation. C'est donc un des types d'outils de médiation qu'on peut utiliser. Un grand mapping sur une collection entière d'alambics dont ils ne savaient pas quoi faire. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'il y avait ceux qui voulaient garder la collection et ceux qui me disaient « Non, mais il faut qu'on s'en débarrasse, il y a au moins 200 alambics, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, ce qu'on a dit, mais c'est qu'on va justement l'accumuler et faire un grand spectacle pour raconter toute l'histoire, parce qu'il y a eu une grosse répression en Suisse sur l'alcool. Et donc, on l'a fait revivre et donc tout le monde est ravi parce qu'on a pu attirer les gens avec quelque chose de très ludique, très contemplatif, et en même temps conserver cette collection.
Merci Suzy. Si on résume alors essentiellement tes partis pris, on a vu par exemple il y a une chose qui est très forte autour de l'immersion, mais aussi de l'incarnation. J'ai l'impression il faut que ça vienne, ce soit très lié soit à l'expérience de la personne dont tu parles, ici le viticulteur, et lié aussi à l'expérience que va vivre le visiteur. Évidemment, c'est très incarné, hein. Donc tu es âme et corps aussi, hein, donc corps et âme. Bon, on va boire un petit coup en Bretagne maintenant. Non, c'est d'abord l'Espagne. On fait notre parcours de visite. Alors Eduardo, il a prévu aussi beaucoup de diapositives, mais on va suivre ce parcours.
Bueno, cuando comenzamos la musealización de las colecciones, tuvimos muchos retos por delante.
Quand on a commencé donc à vouloir mettre les choses dans un musée, on avait de nombreux défis, on a fait face à de nombreux défis.
Dos marcaron mucho la trayectoria de la museografía, que fueron la gran amplitud de las colecciones, más de 20.000 objetos.
Nous avons plus de 20.000 objets, donc ça a été un des premiers défis donc, auxquels nous avons dû faire face pour notre muséologie.
Et par autre lado, su gran diversidad, tanto por origen como por tipología. Objetos etnográficos, arqueológicos, artísticos, artes decorativas, servicio del vino, todos no tienen el mismo tratamiento.
Et nous avons dû faire face également à la grande diversité des objets et des différentes catégories d'objets que nous avions à présenter, ethnographiques, tout ce qui a à voir avec le vin, avec les outils.
Por eso fue importante crear un equipo multidisciplinar. En ese equipo, por un lado, estaban los componentes del museo, equipo de técnicos y conservadores, que nos dedicamos fundamentalmente a la catalogación de esa inmensa colección y a crear los contenidos.
Et nous avons donc dû constituer une équipe multidisciplinaire avec donc les personnes qui sont traditionnellement dans un musée, les conservateurs, afin de cataloguer les différents objets.
Pero los técnicos y los conservadores de museos pues tendemos a querer contar demasiadas cosas. Y por eso fue muy importante contar con un equipo de profesionales museógrafos, escenógrafos, que nos permitieron esos contenidos colocarlos de un modo atractivo para el visitante.
Les techniciens et les conservateurs, nous avons toujours tendance à raconter trop d'histoires. Donc nous avons fait appel également à des personnes spécialisées en muséographie, en scénographie, afin de pouvoir présenter les contenus et les collections de façon attractive.
Bueno, ¿cómo resolvimos esos retos? En primer lugar, lo que es muy importante señalar es que en nuestro museo el centro son las colecciones, su valor patrimonial y su valor documental. Son el eje principal que nos permite hablar de esa gran importancia de la cultura de la vid y el vino.
L'objet c'est du musée, le centre du musée, ce sont ses collections. Et la qualité de ces collections d'un point de vue patrimonial et d'un point de vue documentaire. Donc c'est l'axe que nous avons pris pour pouvoir présenter ces collections.
À partir de ahí, lógicamente, necesitamos también de otros recursos que nos ayuden a interpretar esas colecciones. Pero esos recursos son siempre un apoyo que están sobre la base de las colecciones.
Nous avons également besoin d'autres ressources afin de pouvoir interpréter ces différentes collections. En fait, ce qui nous permet de nous appuyer sur ces différentes ressources.
Nos encantan las posibilidades que da actualmente la tecnología, pero la sentimos como una herramienta al servicio de las colecciones, que son las que nos van a hablar, en este caso, de la cultura de la vid y el vino.
Et nous pouvons également nous appuyer sur des technologies. Nous avons cette possibilité maintenant, mais elles ne sont qu'un outil qui seront au service de la présentation de tout ce qui tourne autour de la vigne et du vin.
Ahí vemos un poco, pues en las imágenes vamos a ir viendo algunos de esos recursos que nos ayudan a interpretar las colecciones.
Nous voyons donc plusieurs images ici à l'écran, ces différentes ressources qui nous permettent en fait de présenter et d'interpréter les collections.
Y comentaba que uno de los retos importantes era la gran diversidad de las colecciones por origen y por tipología. Por eso el museo tuvo una idea muy clara, que lo que queríamos transmitir es un homenaje a la cultura universal del vino.
Donc parmi les défis, c'est la grande diversité des collections que nous avons, tant par leur origine ou leur type. Et notre idée était ainsi donc de transmettre et de pouvoir transmettre ces différentes collections.
Somos un museo totalmente privado, con una financiación totalmente privada, pero en cualquier caso, nunca queríamos, nuestro objetivo era hablar de nosotros, de nuestra bodega. nunca nuestro objetivo fue hablar del vino en La Rioja, sino que nuestro objetivo, por el origen, por la dimensión de las colecciones, era un homenaje universal a la cultura del vino, algo que creo que es lo que le ha dado uno de los grandes valores que tiene la institución.
C'est une collection privée, avec un financement privé. Nous souhaitions tout d'abord parler de nous, en fait, de la cave et de la Rioja. Mais la dimension de cette collection va au-delà. C'est vraiment nous souhaitions rendre un hommage universel à toute la culture, en fait, du vin.
Ya se ha hablado aquí de la importancia de los relatos. No solo es cuestión de marcar, poner las obras encima de unas vitrinas en una sala, sino que tenemos que contar algo con ellas. Y sobre todo cuando son colecciones tan amplias, tan diversas.
Nous avons parlé donc de l'importance du récit, mais il va plus loin que le fait de mettre simplement les choses dans une vitrine. C'est également raconter quelque chose et raconter quelque chose sur la base des collections.
Y eso además en un mundo como es el de la vid y el vino, que es un mundo multidisciplinar. Cuando hablamos de viticultura, estamos hablando de suelos, estamos hablando de climas, estamos hablando de variedades. Cuando estamos hablando de enología, estamos hablando de barricas, de crianza, de diferentes tipos de vino y, por supuesto, luego toda la dimensión cultural y social que hay detrás de ello.
Dans le monde nous parlons du monde de la vigne et du vin, plus qu'au-delà de la viticulture, nous parlons également de différents climats, de différentes variétés, différents cépages. Quand on parle d'œnologie, on parle de vieillissement, de barrique et de l'aspect au-delà de l'aspect culturel.
De manera que la muséographie empieza hablando desde el edificio, desde la arquitectura. Y ahí, bueno, pues contamos con la ventaja de construir un edificio específicamente para albergar un museo del vino. Esto no todo el mundo se lo puede permitir. A veces recibes un edificio heredado, no es el caso, y el museo ya nos ayuda a contextualizar lo que vamos a hablar.
Au sujet de la muséographie, on parle également donc du lieu. C'est un lieu qui a été construit. C'est pas un lieu que parfois on hérite d'un lieu qu'on doit occuper, qu'on doit adapter. Et là, dans le cadre donc de ce musée du vin, nous avons constitué cet endroit et nous avons vraiment créé cet endroit.
L'édifice tiene 10.000 mètres carrés. Con 4.000 metros dedicados a la exposición permanente y con continuos guiños pues, al mundo de la vid y el vino en su propia construcción.
Sur un espace donc, de 10.000 mètres carrés, nous avons 4.000 mètres carrés d'exposition permanente avec également des clins d'œil au monde de la vigne.
¿Qué es lo que contamos en esa exposición permanente? Ahí tenemos, siempre hablamos de 6 espacios, 5 interiores y 1 exterior, que es precisamente el que se ve en la diapositiva, un jardín ampelográfico.
Qu'est-ce que nous racontons donc dans cette exposition permanente? Nous avons 6 lieux. Sur ces 6 lieux, 5 sont des lieux extérieurs et un lieu intérieur, donc sur l'ampelographie. Pardon? Que salen bien.
Son 5 interiores y 1 exterior.
5 interiores y 1 exterior.
Pardon, excusez-moi, oui, c'est 5 lieux intérieurs et 1 lieu extérieur.
El discurso que seguimos en las 3 primeras salas es el ciclo de la vid y el vino, el ciclo productivo. Estamos hablando a través de las colecciones de cómo se elabora el vino, desde el campo, la bodega, hasta la comercialización.
Donc dans les 3 premières salles, nous avons le cycle de production du vin, comment est produit le vin depuis la récolte jusqu'à la vinification.
Y por tanto en estas 3 salas fundamentalmente lo que vamos a encontrar es la colección etnográfica, maquinaria y herramientas. Y en esta sala pues la presencia de elementos interpretativos, de recursos que nos ayudan a interpretar esas máquinas es superior.
Dans ces trois salles, nous avons une collection de machines et d'outils, et ce qui nous donne des éléments d'interprétation sur l'utilisation donc de ces machines et des outils.
Es muy diferente hablar de obras de arte a hablar de objetos etnográficos. Detrás de la etnografía hay trabajos, hay procesos que el público, el visitante, no siempre puede conocer, y por tanto es muy importante poder interpretarlos.
Et c'est différent en fait d'interpréter. Il est très intéressant d'interpréter ces objets d'un point de vue ethnographique. C'est pas la même chose que de présenter un tableau ou une œuvre d'art.
Pero al poner siempre el foco en los objetos, en la propia maquinaria, yo creo que ya ahí huimos de una representación folclórica. No se trata de representar nuevamente una realidad, sino se trata de interpretarla.
En mettant l'accent sur les objets et les machines, et c'est plus une représentation folklorique. C'est pas simplement présenter ces objets, sinon interpréter également.
Et bueno, para esa interpretación se ha visto por las imágenes. Utilizamos textos, imágenes, mapas, dibujos, figuras interactivos. Y siempre que hablamos de un tema, por ejemplo, la viticultura, hay un vídeo que resume todos esos trabajos, pero siempre sobre la base de las piezas.
On part en fait toujours des pièces, mais ensuite l'interprétation se fait par l'intermédiaire d'images, de textes, de cartes, avec une interaction et des vidéos et qui représentent en fait tout ça, mais toujours en revenir en fait aux objets, à l'interprétation de ces objets.
La sala cuarta es un poco la más especial del museo, donde se encuentran todas las colecciones de arte, de arqueología, todo originales, que ha reunido la familia Vivanco, todas ellas vinculadas a la cultura de la vid y el vino.
La quatrième salle est une salle un peu plus particulière et spéciale. C'est une salle qui regroupe tous les objets et toutes les objets d'art en fait, et ce sont tous des objets originaux, pour présenter et regroupe en fait ces différents objets.
El vino no solo es una bebida, es cultura, es arte, es socialización. ¿Cómo hemos juntado aquí o qué discurso hemos realizado aquí?
Le vin, c'est pas seulement une boisson, c'est également de l'art, de la socialisation, et c'est ce que nous regroupons et présentons ici.
Ya me queda poquito. La sala de arte fundamentalmente está dividida en dos partes, una en la cual hablamos a través de las piezas de la importancia del vino en los mitos, en las religiones y en las leyendas, en el mundo un poco más espiritual.
La salle est divisée en deux parties, une partie et une pièce qui est dédiée plus à la présentation du vin, mais d'un point de vue avec tous les mythes qui sont liés, les religions ou les légendes.
Et la seconde partie, hablamos de la vid y el vino comme une fuente d'inspiration artística, comme artistas de todas las épocas, desde la antigüedad hasta hoy en día, se han inspirado en la vid, en el vino, para crear belleza, para crear arte.
Et l'autre partie de cette salle est donc sur la vigne et le vin, en tant que source d'inspiration, comment les artistes ou les écrivains se sont inspirés en fait de la vigne et du vin pour créer.
Y para terminar, un poco la última sala se dedica al servicio del vino, como el elemento más popular de en torno a la vid y el vino es beber. Es un poco al que más acceso tiene todo el mundo, y por eso también tiene su propio espacio, dividido en los tres principales elementos que hacemos con el vino en la mesa: abrir, la colección de sacacorchos, beber, recipientes de servicio, y beber, catavinos, porrones, copas.
Merci, hein, désolé de couper, mais la traduction. Traduis,
oui, le service, l'autre partie, la dernière partie, c'est plus pour le service du vin, qui est la partie plus populaire, disons, parce que le vin, il est fait pour être bu, donc c'est un peu un accès de tous, avec sur trois axes principaux, ouvrir une bouteille, donc toute la collection de tire-bouchons, boire avec les différents verres et les différents ustensiles qui sont utilisés pour consommer le vin.
Merci. Là, on voit qu'on est très clairement dans ce qu'on appelle les logiques d'univers, hein, c'est-à-dire il y a des objets, il y a des espaces, il y a des dimensions techniques, scientifiques, artistiques, culturelles, et ça correspond à peu près à ce qu'on disait tout à l'heure dans le cadre d'une société liquide où le visiteur a un peu tous ses registres en tête à travers tout ce qu'il a vu à travers les réseaux sociaux, la télévision, les médias, tout c'est ce qu'on appelle ces discours en circulation. On pourrait quand même demander tout de suite quand même à Eduardo, au-delà de tous ces éléments de production qui sont techniques, scientifiques, culturels, artistiques, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un fil rouge ou une trame au niveau de la narration, au niveau du récit ? Est-ce que c'est par exemple la découverte, l'immersion progressive dans un univers ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur ?
Sí, el hilo conductor fundamentalmente es el homenaje a la cultura universal del vino a través de cómo se elabora, del proceso productivo y luego pues, en la sala de arte a través de todo lo que ha generado el vino espiritualmente y artísticamente.
Oui, le fil conducteur, c'est cet hommage universel à ce que représente la vigne et le vin dans son processus pour le faire au départ, donc tout le processus, la récolte et le processus du vin, et ensuite la partie plus artistique, l'art et la partie spirituelle.
Oui, on avait oublié le spirituel, c'est quand même au sommet de l'axe. Bien, Céline, on va voir et boire en Bretagne à travers cette exposition qui date, je crois, de 2015, mais qui était marquante. Hein.
Oui, voilà, je pense que, comme je vous disais, au musée, on fait pas mal d'expositions. Donc, depuis 2015, je pense qu'on a fait une bonne quinzaine. Mais ça reste pour moi, effectivement, un des projets les plus marquants sur lequel j'ai travaillé, sans doute l'un des plus positifs aussi en termes de bilan et d'évaluation de la réception auprès des publics. Donc ce projet, alors, il ne vous aura pas échappé que la Bretagne n'est pas une région viticole, mais qu'on y boit beaucoup de choses, et notamment du vin. Ce projet, en fait, je l'avais proposé dans une autre vie, dans une autre région, mais quand je suis arrivée en Bretagne à la direction de ce musée fin 2012, et c'est le premier projet finalement que j'ai proposé de mener et d'en assurer du coup le commissariat. C'est un projet qui s'est imposé assez vite, naturellement, comme étant intéressant à porter dans cette région. Et c'est un projet qui m'était venu dans les musées de société. Nous lisons un certain nombre de revues, et moi dans ma formation il y a une revue qui m'a beaucoup marquée, c'est la revue Terrain. Et ça remonte il y a déjà longtemps, dans les années 90, la revue Terrain, je veux un peu y rendre hommage, c'est une revue importante, avait édité un numéro qui s'appelait, on a repris le titre, revue éponyme, c'était Boire. Revue et numéro très intéressant que je vous invite d'ailleurs à relire aujourd'hui, cette revue est en ligne. Donc cette exposition, c'est un projet de diffusion culturelle, donc avec une exposition, mais également un projet de collecte, une édition, puisqu'on dit qu'une exposition, à un moment donné, ça reste, donc on a eu la chance et la possibilité de faire un catalogue. C'est une exposition pour laquelle il y a eu aussi des projets de programmation culturelle et une création artistique, puisque vous voyez aussi que l'affiche qui est positionnée à côté est reliée finalement à un travail que nous avons mené avec un artiste qui a eu une place très importante dans la muséographie, dans la scénographie, qui s'appelle Yoren Gerner. Nous sommes partis d'un constat, que je vous ai réécrit sur le document, du fait que le boire, c'est quelque chose qui est universel, qui s'impose à tous, un acte physiologique aussi bien que culturel, et qu'en Bretagne, perdure un certain nombre de stéréotypes et de représentations du buveur. Donc c'est de là que nous sommes partis, nous, vraiment de la position d'analyser finalement le buveur, pourquoi boit-on ? Et nous sommes partis d'un questionnement. Finalement, nous ne sommes pas partis des collections, même si nous avons un fonds de collection très riche. Hein, j'en ai mis juste un exemple, une représentation de Yann Lagoutte, qui est un buveur impénitent. Et vous voyez qu'en buvant trop, on finit dans les flammes de l'enfer. Et on souhaitait vraiment se poser cette question de la mise en récit. Quelle expérience voulions-nous proposer et comment passer de la collection au récit? Nous voulions vraiment une approche très décloisonnée, pluridisciplinaire. Je vous ai mis un exemple des collections que nous avons pu présenter, qui vont des Beaux-Arts, la Muse Verte, qui est un tableau qui nous était prêté par le musée des Beaux-Arts d'Amiens, à une œuvre très contemporaine d'un artiste suisse qui s'appelle Marcus Retz. Vous aviez peut-être vu l'expo qui lui était consacrée à la BNF et que nous avons utilisé dans le cadre d'une partie sur l'ivresse, puisque quand on tourne autour de cette œuvre, le verre devient grand ou petit et la bouteille réciproquement, et puis la place du vin en Bretagne au travers d'un certain nombre de documents iconographiques. Comme poursuivi finalement, et au musée nous avons ces compétences, nous les menons en interne. La muséographie fait partie des compétences qu'on a dans les musées de société, et au travers d'un groupe projet on a défini donc dans ce schéma finalement ce que nous voulions faire avec une question. Donc finalement quelque chose d'assez simple, pourquoi est-ce que je bois? C'est vraiment la question qu'on voulait que le public se pose, donc un scénario qui puisse être simple, efficace. Les publics à qui nous adressons, alors les champs libres ont vocation à s'adresser au grand public, donc c'est tout et c'est rien. Au musée, nous ambitionnions aussi de renouveler, le public, notamment le public jeune. Au champs libres, il y a 1 million de visiteurs qui viennent aux portes, il y en a 70 000 qui viennent au musée. Au centre de culture scientifique et technique, il y en a à peu près 200 000. Mais on a beaucoup de gens qui passent, qui viennent pour flâner, se reposer, faire tout autre chose que des usages culturels. Et il y a beaucoup de jeunes, parce qu'en fait, la bibliothèque est ouverte le dimanche, donc il y a aussi beaucoup d'étudiants. Et l'un des enjeux, c'était aussi de travailler la cible des jeunes, on va dire jeunes adultes, et de travailler aussi dans un musée public. On est aussi à la croisée d'autres enjeux de politique publique, et nous avions approché la direction de la santé pour travailler aussi cette problématique par rapport à la politique publique de la prévention et de la santé, pour voir quelles pourraient être nos collaborations sur le sujet. Donc l'exposition s'est déclinée en 4 grandes sections. Pourquoi est-ce que je bois ? Parce que j'ai soif. Pourquoi je bois ? Parce que c'est bon. Pourquoi je bois ? Parce que c'est bien d'être ensemble, c'est de la convivialité, et aussi parce que ça produit des effets de différentes natures. Alors si la régie peut envoyer peut-être une très courte vidéo qui faisait partie des audiovisuels présentés, vous me direz si c'est compréhensible. C'est donc l'artiste, c'est basé sur le travail de l'artiste Johann Gerner. C'est très court. Ça vous donne grosso modo toutes les thématiques que nous avons abordées dans cette exposition, où les objets, à la différence peut-être de vos autres projets, et puis nous aussi des partis pris qu'on peut avoir dans le récit du parcours permanent du musée, on a présenté des objets, dits ethnographiques, à côté d'objets, artistiques, d'œuvres d'art contemporain, et également beaucoup de dispositifs de manip, d'audiovisuel, de dispositifs numériques. Alors, je vais quand même vous montrer quelques éléments de la scénographie, dans le ton et donc dans l'intention aussi scénographique. Donc, après le scénario, effectivement, l'étape d'après, ça a été le travail avec le scénographe. Et dans ce projet, je dirais qu'on a eu un peu tous les feux au vert. Il y a des projets parfois qui se passe plus ou moins bien. Mais là, on a eu la chance de trouver un bon artiste, un super scénographe, un conseil scientifique, Suzy en parlait, avec qui le dialogue a été extrêmement facile, aisé, où il y avait des géographes, des sociologues, des historiens, les collègues, on va dire, du service de la santé, voilà, des personnes d'horizons très différents. Et la scénographie, et du coup, c'est un peu les retours qu'on en a eu ensuite dans l'évaluation avec les publics, alors qui a été menée, vous parlez de Gaëlle Le Saffre, qui fait chez nous aussi beaucoup d'enquêtes sur les publics, notamment sur la réception. On a eu un taux de satisfaction très, voilà, très, très fort, et notamment d'un point de vue de l'expérience. Alors, je vais peut-être montrer les... quelques images où vous verrez justement les parties pris, notamment scénographiques, qui étaient d'avoir une accessibilité des contenus voilà, très facile. On a entendu parfois dans ces dernières tables rondes la vision parfois un peu négative qu'on peut avoir du musée, de sa manière de présenter le récit. Et on a justement essayé, nous, de dépasser, voilà, c'est, là aussi c'est parfois des stéréotypes, d'avoir des bases, on va dire, scientifiques et culturelles solides, mais de proposer une expérience où le visiteur, on va dire, pouvait lui-même finalement faire l'épreuve de sa propre consommation et de se demander lui-même pourquoi moi je bois, qu'est-ce que je bois, quand je bois, et finalement d'avoir lui-même finalement, de sortir finalement de l'exposition, bah, soit conforté dans ses certitudes, hein, pourquoi pas, ou soit de se poser des questions. C'était sans avoir forcément nous de réponse à lui donner. Et ça a été vraiment l'enjeu de la dernière partie de l'exposition qui était sur la thématique des effets. On a bien vu que les politiques ont beaucoup évolué depuis le... on va dire, on s'est surtout attardé sur le 19e et sur le 20e, et notamment sur les normes et sur qui caractérise-t-on, on va dire, de buveurs, de grands buveurs, l'apparition dans la loi également de phénomènes d'alcoolisation et les politiques de prévention. Et l'idée était de ne pas être justement dans un discours moralisateur, mais de plutôt exposer des faits et d'exposer des questionnements. Et ça a été l'un des enjeux aussi, du coup, de ce qu'on a appelé un parcours santé, un parcours un petit peu décalé, où on a beaucoup utilisé la manière dont la bande dessinée ou le roman graphique ont pu utiliser aussi, on va dire, le boire. Bon, moi, je suis une grande fan de BD. En Bretagne, on a beaucoup d'auteurs, et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à lire Les Ignorants d'Étienne Davodeau. C'est quand même un grand moment, mais il y en a plein d'autres. Et avec Yoren Gerner, c'était pas prévu ça dans le scénario de l'exposition. Au cœur de l'exposition, on avait un café, un assez grand café où on pouvait voir des films, écouter de la musique, on pouvait faire des jeux, on pouvait lire la presse, parce que finalement on voulait aussi donner l'expérience de qu'est-ce qu'on fait au café. Donc on avait fait une gazette où on avait des questions, voilà, plutôt sur le mode apprendre, mais de manière différente, comme ça peut être ce matin. Et puis on souhaitait avoir une sorte de synthèse par une mise en abîme finalement des collections, parce qu'un musée c'est aussi des collections, une mise en abîme du vocabulaire du boire au travers de... Alors c'était un très très grand mur qui faisait, ça devait faire 6 mètres de haut par 20 mètres de large, et c'était aussi un support qui a été très utilisé pour les médiateurs. Voilà, c'est mon dernier document. Je vous ai mis quand même quelques éléments de bilan pour vous montrer aussi qu'une exposition dans un musée c'est aussi du travail, parce qu'un visiteur, la visite, alors ça pouvait aller d'une demi-heure, mais un collègue de la Cité du Vin qui était venu nous voir juste avant que la Cité n'ouvre nous avait dit qu'il avait tout vu, tout écouté, tout lu. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on en faisait peut-être parfois trop. On était sur, en gros, plus de 5 heures de contenu, en fait, si on voulait mettre tout bout à bout, puisqu'on avait beaucoup de diffusion audiovisuelle. Mais ce qu'on a conçu, c'est qu'on a finalement mis beaucoup de choses en ligne. Et aujourd'hui, cette mise en récit, on est en train de chercher à la décliner sous une forme, on va dire, itinérante, qui soit plus qu'une expo, on va dire, panneau dossier, c'est-à-dire qu'on réutilise ce qui avait vraiment très bien fonctionné, qui étaient les manipulations. Et les manipulations qui ont fonctionné le mieux, c'était vraiment des manipulations physiques et non pas des manipulations numériques. Voilà, si on peut terminer comme ça.
Merci Céline. On a évoqué tout à l'heure en fait les trois, la notion de disposition, de disponibilité. Alors il y a un tas de schémas qui montrent cette disponibilité, il y a chacun sa petite équation, son petit algorithme. Il y en a un qui fonctionne bien autour du learn do like. Et, bon, par exemple, est-ce que le récit est fait pour m'apprendre quelque chose, learn ? Est-ce que le récit m'invite à l'interaction et l'interactivité, le do ? Et on sait que c'est une demande très forte aujourd'hui, ça a été évoqué dans la table ronde qui nous précédait aussi, la demande aussi des visiteurs de faire quelque chose, d'être dans le do. Et bien évidemment, il y a le like qui fait que je finis par m'attacher aux objets, aux choses, à me divertir, et donc à voir comment vous pouvez arbitrer. Et on sait, alors il y a un tas de modèles qui existent, qui ont été construits en philosophie, autour de l'expérience, du marketing, de la communication, peu importe, et on peut tous s'en sortir en disant, bah oui, mon récit, il est à la fois didactique, j'apprends, esthétique, il faut que ce soit beau, polysensoriel, il faut que je vive des sensations, didactique, je vais apprendre, etc., etc. Et donc on s'en sort toujours comme ça. Alors moi je voulais coincer les intervenants, je ne veux pas qu'ils nous disent mon récit il est un peu tout ça, parce que c'est trop facile de dire il est à la fois didactique, ludique, esthétique, scientifique, etc. Il y a quand même bien une dominante, vous avez quand même bien une posture dominante, donc Edouard... Où Edouard me renvoie dans les cordes et me dit ben si c'est comme ça, mais est-ce que tu as quand même un parti pris fort au niveau du récit, c'est-à-dire on vient chez toi, pourquoi?
C'est pas si simple de répondre à une telle question. Alors oui, on va dire qu'il y a un peu de tout ça, mais en fait je crois qu'il y a deux paramètres à distinguer. Il y a à la fois le paramètre du récit que les gens vont voir, vont apprendre, donc l'aspect didactique c'est indéniable, mais aussi on va dire la mode du moment en matière de scénographie. Ça je vais dire un truc politiquement incorrect, c'est-à-dire que moi je suis dans un musée d'ethnographie en majorité, et je trouve qu'on régresse beaucoup dans la manière de présenter les objets ethnographiques, c'est-à-dire qu'on veut absolument les présenter comme des objets d'art, ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire ça n'empêche pas d'avoir un joli socle et une belle lumière, mais un objet d'ethnographie, ça se comprend dans un contexte. Et la mode, à l'heure actuelle, n'est pas du tout à cela. Donc ça veut dire que moi, la scénographie que je vous ai montrée rapidement au Muséum, je ne l'ai pas choisie. La scénographie m'a été imposée, appel d'offres, blabla, et tout ce qui s'ensuit. Donc ça veut dire aussi qu'il faut... le lien entre le concepteur de l'exposition et le muséographe est extrêmement important. C'est au moins 50% de la réussite, au moins, d'une exposition. Et que du coup, malgré tout, ce que je peux en dire, c'est que la perception des objets a changé avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, les objets d'agriculture, mais ça barbait tout le monde au dernier degré. Aujourd'hui, les gens s'y intéressent, sans doute parce qu'il y a tout le contexte sur les problématiques alimentaires aujourd'hui, le bio, etc. Et donc il y a un regard sur l'objet qui est nouveau aujourd'hui et qui réinterroge vraiment le lien avec le passé, ces objets techniques et qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur aujourd'hui et demain. Et ça, c'est vraiment une approche nouvelle. Voyez. Bon, voilà, c'est ma perception de la chose.
Donc, si on t'entend bien, il y a quand même un parti pris didactique. On est là pour, dans une relation de connaissance, hein, de découverte dans la relation à l'objet. Et on a vu la présence de l'objet. On va changer un peu l'ordre d'intervention. Céline, on revient en Bretagne. Au-delà de l'exposition Boire, est-ce qu'il y a une philosophie qui se dégage du musée de Bretagne, parti pris, peut-être, au-delà du parti pris, une philosophie quand même dominante?
Je ne vais pas être très originale, je vais reprendre ce qui a pu être dit ce matin par rapport aux études des publics. Les personnes, quand elles sont, on va dire, auditées, questionnées, elles sont là, effectivement, dans la question de la transmission des connaissances, c'est leur première motivation, en fait. Après, elles veulent apprendre des choses, mais de manière différente. Donc c'est tout là notre enjeu, mais effectivement, on ne se positionne pas comme un lieu de divertissement. On est sur cet enjeu de la transmission des savoirs.
Pas un lieu de divertissement en priorité? Non, d'accord. Donc c'est bon pour attirer les scolaires, ça? Non, pas que... Ah, c'est pour faire réagir Suzy, qui n'est pas du tout d'accord. Oui. Boire, c'était un peu provocateur. En plus, c'est très glouglou, hein, c'est un univers très sonore, hein, vous avez remarqué. anciennement. Suzy, il y en a des partis pris là. Alors, le récit, parce que tu es complètement dedans. Est-ce qu'on est, je sais qu'on a aussi travaillé sur les notions d'expérience hein, qui sont importantes. Vous savez qu'on définit toujours alors, l'expérience, pourquoi l'expérience? Parce qu'il faut qu'on vive un moment quand on vient quelque part, on veut vivre un moment. Alors vous savez que les visiteurs ils sont malgré tout aussi dans deux logiques, une logique de programmation, on fait ci, on fait ça, ensuite on va là, qui est des fois aussi liée à ceux qui organisent précisément votre visite, et puis au-delà des logiques de programmation, des logiques d'émergence, ouvertes aux aléas, à la surprise, à l'aléatoire, à l'ajustement progressif à une situation. Et souvent, on privilégie plus l'expérience en se disant, si ça doit être un moment, ça doit être un moment fort. Et il y a un tas de modèles, vous savez, aussi autour de l'expérience. On dit l'expérience, elle doit, on l'a dit tout à l'heure, dans le récit expérientiel, il faut qu'il y ait une coupure. Il y a au moins 6 points, si vous voulez, dans l'expérience. Il faut qu'il y ait une coupure. Derrière cette coupure, il faut qu'il y ait un marquage sensoriel, une reprogrammation sensorielle qui est extrêmement forte. Derrière, il y a ce qu'on évoque ici, la trame narrative. Au-delà de cette trame narrative, la capacité de l'individu, une capacité réflexive. Il se voit faire des choses. Et donc, à force de se voir faire les choses, ça requalifie le moment. Bon, par exemple, grâce à la visite du MUCEM, il se dit, moi, cet objet, au début, il ne me parlait pas trop, et maintenant, je vois que dans la relation que j'ai avec cet objet, il m'apprend des choses, il m'ouvre l'espace mental à quelque chose de nouveau, et tout ça, ça entre non seulement dans une dimension de réflexivité, je me vois tout d'un coup accéder à un monde sensible nouveau, et cette dimension de réflexivité m'amène à une dimension de requalification de l'expérience, c'est-à-dire il y a un changement de degré. Ce que je vivais dans le continuum du quotidien, tout d'un coup, est requalifié. C'est ce qu'on appelle le changement de degré. Et enfin, dans l'expérience, évidemment, il y a une dimension mémorielle. Je suis marqué par l'expérience et je vais retrouver des choses. Ça, c'est un modèle parmi d'autres. Et donc, est-ce que tu te retrouves un peu dans ce qu'on vient de dire ou est-ce que c'est trop conceptualisé et puis il faut se libérer de ça et puis être plus dans la spontanéité?
Non, je suis désolée, mais c'est vrai que moi, je vis que par la science, je lis que de la science, je vis que avec des chercheurs. Donc, en fait, ma première attention, c'est réussir à dire aux visiteurs que la science, c'est incroyable, que c'est hyper beau et qu'on n'a pas besoin d'autre chose pour s'émerveiller. Et donc, l'expérience, en fait, elle vient, l'immersion que je vais créer, elle vient en support, mais de ce que je veux dire, en fait. Elle n'est que la traduction. Et avant tout, moi, je pense que la science, ça peut émerveiller n'importe qui. J'ai une petite, elle a 3 ans. Je lui raconte des trucs fantastiques et je lui parle comme je parle n'importe quel visiteur. Donc, tu prêches une convaincue, c'est le contenu avant tout.
Merci. Le dernier mot à Eduardo avant les questions à la salle, avec la salle. Alors, simplement, par rapport à... On a évoqué ce parti pris. J'ai l'impression que le parti pris dans la... Mais je ne vais pas répondre à ta place. C'est, malgré tout, la logique d'univers qu'on évoquait tout à l'heure. Dans le récit, il ne se concentre pas sur un objet. Il ne se concentre pas. On a l'impression que tu veux créer tout un monde.
Bueno, el mundo es cambiante. Y la sociedad es cambiante. Y nuestros discursos, por tanto, también cambian.
Le monde est changeant, la société est changeante, et par conséquent, nos discours changent également.
Y nuestro museo tiene un discurso muy, muy claro, que es el que he comentado, pero un relato, un discurso, no deja de ser una reducción de la realidad. Tiene una dimensión reduccionista y desde ese punto de vista pues caben muchas otras interpretaciones.
Notre musée a un discours clair au-delà du récit, c'est un récit et la dimension de la réalité peut être parfois réductrice, donc cela va bien au-delà en fait de cette réalité.
on a peu évoqué, par exemple, on n'a pas le temps, vous l'avez compris, des dimensions, on évoque le réel, vers l'imaginaire, vers la fiction. Est-ce que le récit doit rester accroché au réel ou est-ce qu'au contraire, il doit nous mettre dans une immersion totale, donc nous transporter complètement? Bon, vous avez compris, de toute façon, on ne peut pas écluser le sujet dans une table ronde. Et le propre d'une table ronde, c'est de ne pas clore le sujet, mais de l'ouvrir. Et de